Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. Alors c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons un artiste aux multiples facettes, Loïc Labaste, comédien, metteur en scène, maître de cérémonie et performeur, chant et danse. La liste est longue. Bonjour Loïc, comment ça va ?
Salut Jean-Philippe, ça va très bien, merci.
Bon, on va passer une petite heure ensemble pour découvrir l'étendue, votre palette, et puis votre actualité, les spectacles, il y a beaucoup de choses à dire. On va d'abord écouter le Flash Info national et international, et on se retrouve tout de suite après ça. Ne bougez pas, on
arrive. Tout de suite.
Et voilà, c'est parti. Alors nous sommes avec Loïc, alors j'ai énuméré un petit peu certaines de vos activités et compétences. Faut dire que vous n'avez que, je dis ça parce que je suis un peu vieux, 26 ans.
Ouais.
Et donc du coup on se dit, vit-il dans le même espace-temps que nous ?
J'ai une vieille âme, c'est
voilà.
Pour ça.
Alors vous avez donc une histoire à nous raconter, ça a démarré très tôt en fait, tout ce
et
qui vous est arrivé.
Et oui, j'ai commencé justement dans mes chères landes à Aurist, petit village, et au théâtre de Saint-Lon-les-Mines. Aurist, il y avait un petit cabaret qui était tenu par deux copines, Hélène Bonan et Pierrette Kopp. Et je suis monté sur scène à l'âge de 9 ans, voilà, en 2010. Et ils m'ont dit, tiens, tu ferais pas un peu des sketchs aussi, pas que danser. Et je me suis mis au sketch. Et après, le théâtre à Saint-Lon-les-Mines, mené par Jean-Michel Duluc et Marie-Josée Larivière, m'ont dit, pourquoi pas, tu pourrais peut-être venir faire du théâtre. J'ai découvert le théâtre en 2010. Qu'est-ce que j'aimais pas ça. Oh là là, en répétition, je n'aimais pas du tout, jusqu'au moment où arrive la première, toute première, j'avais le rôle principal, j'avais 10 ans et c'était la révélation, forcément.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un passage, pour ceux qui ont pratiqué quelques formes d'art, de spectacle, il y a le avant et le après la scène,
Ah oui.
Il se passe quelque chose je crois.
Toujours, mais il y a aussi les inspirations. Avec mes parents, on allait de temps en temps à Paris. Et à Paris, ils m'ont amené voir le même week-end la revue Féerie de Moulin Rouge, donc sacrée grande institution du cabaret, et Mozart l'Opéra Rock en 2010. Ça dans le même week-end. Et je me suis dit, je crois que c'est ça que j'aime. Le spectaculaire, le grand, les costumes, le spectacle, le chant et la danse.
Ah oui.
C'est comme ça que c'est arrivé. Et je me suis dit, ouais, je crois que c'est là que je veux commencer à faire ça.
Voilà, c'est tout un univers là. C'est, c'est vrai que c'est un monde, une fois qu'on y a mis un doigt dedans, difficile d'en sortir. Hein. Alors, après ces premiers débuts d'enfants, pré-ados, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il s'est passé que je suis allé dans un collège à Cabreton qui proposait une sorte d'option comédie musicale pour la fin de l'année. On a monté Les Misérables, et j'avais adoré, je la connaissais par cœur. Et j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien aller au lycée à Nailles avec une option théâtre, le lycée Saint-Joseph. Ils m'ont dit oui, banco, en internat pendant 3 ans. Et ça a été des plus belles années de ma vie sur le plan théorique, apprendre le théâtre avec les professeurs de français, littérature française. Et après, bien sûr, la pratique qu'il y avait. J'ai traversé plus de 10, 11 pièces pendant 3 ans. C'était des heures aménagées. Donc, il y avait l'option légère, l'option lourde. Donc, j'avais 9 heures de théâtre par semaine.
Ah oui, c'est plus que les autres disciplines.
Ah oui complet. À part en terminale, on avait 7 heures de philo, c'était bien aussi.
Ah oui, ça peut aller avec. Hein.
Ah oui, complètement, ça s'y prêtait. Et voilà, et après le bac... Je voulais monter sur Bordeaux pour faire une licence de théâtre pendant 3 ans pour continuer la culture générale et la littérature. Et en même temps, le cours Florent venait d'ouvrir en 2017. J'ai fait le stage, j'ai été pris. Et donc, je suis parti pendant 3 ans faire le cours Florent et en même temps, la fac la journée et le cours Florent le soir.
Oula.
Donc, c'était des journées bien chargées, plus les répétitions, plus les DS, donc les devoirs surveillés, tout ça. Bon, ça a été exceptionnel, mais tout s'est bien déroulé et c'est comme ça que j'ai créé ma compagnie dès la deuxième année du cours Florent.
Ah oui, alors le cours Florent, donc, tout le monde connaît, on connaît surtout, on va dire, Paris, hein, voilà.
Et oui.
Mais
et
il y a aussi des extensions comme ça dans d'autres villes de France.
Oui, il y a Montpellier, Bordeaux et Bruxelles.
D'accord.
Ouais.
Ah ouais, ben ouais. Ouais, c'est une liste de villes pas mal.
Ouais, et même planté à Berlin, ah ouais. Pour dire.
D'accord. Ouais. Ah oui, donc alors, parce qu'on parle souvent du cours Florent, on entend des comédiens célèbres à la télé qui en parlent souvent. Oui. Alors, comment ça se passe, ce cursus là, ça dure combien de temps et qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on y fait?
Au cours Florent, on apprend la direction d'acteur. Mmh. Donc, chaque professeur sont soit des metteurs en scène, soit des comédiens. Et qui jouent parfois. Des fois, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient en tournée. Mmh. J'ai adoré découvrir différents univers de ces professeurs et ils m'ont vraiment appris à travailler, dont un qui s'appelle Luc Anglarès. On a parcouru beaucoup de pièces avec lui. On a travaillé sur Jean Genet, on a travaillé sur... Franck, je l'ai plus. Mais voilà, c'était un pur plaisir de faire cette école. Mais c'est vraiment les professeurs qui font la formation. L'école était très sympa. Et c'est comme ça aussi qu'on a créé avec tout notre groupe de première année, puisque c'est la première promo, la compagnie Les 11%.
Oui. Alors voilà, on a parlé aux antennes. Cet étrange nom, les 11%, ça ressemble à une série Netflix. Qu'est-ce donc?
Les 11%, c'est parce qu'on était 100 en dernière année du cours Florent, on en a fait 3 ans, et on était 11 à vouloir faire une compagnie, tous ensemble, et créer une pièce. Donc c'est deux copines, Claire Garland et Fiona Stellino, qui ont créé une pièce appelée ADN de Denis Kelly, où on est venu d'ailleurs faire une résidence à Eugas, au foyer rural. Ils nous ont accueillis. Et du coup, on a monté ce projet-là, on a fait cette première pièce, et après on s'est un petit peu emballé, on a monté un festival, qui était dans Lot-et-Garonne, à Bouglon, à côté de Casteljaloux, qui s'appelait Les Théâtrales, qui était le dernier week-end d'août, et c'était exceptionnel de vivre ça, toujours un mois de répétition pour jouer 3 fois, une pièce à 11, on a monté des trucs exceptionnels, comme dont Cyrano de Bergerac.
Ouais, c'est l'occasion de rappeler un petit peu aux gens ce que c'est un statut d'intermittent du spectacle, c'est pas parce que les personnes font 2 heures de travail devant vous, qu'elles ont travaillé que 2 heures. Hein. Il a fallu en amont faire énormément de travail, ce qui fait que les intermittents du spectacle ont un système de rémunération différent. Il faut le rappeler qu'il y a beaucoup de travail. C'est l'iceberg du spectacle, en fait.
C'est très important de dire ça, parce que on croit qu'on fait que jouer. Voilà, on voit que le résultat, le spectateur. Mais en fait, les heures de répétition à la maison, avec l'équipe, que ce soit même un seul en scène, il faut quand même être avec le metteur en scène, avec le technicien. Ça se prépare sur des mois et des mois pour arriver à jouer des fois 1, 2, 3 dates,
c'est
grand
ça,
max. Et de partir en tournée, ce n'est pas si simple.
Ouais, c'est une discussion que j'avais eue avec un musicien une fois. On avait conclu que dire à un artiste qu'il avait du talent, c'était insulter son travail.
Moi j'aime pas trop le mot talent. Il y a ce truc de travail. Voilà, on travaille, on voit ce que ça donne, on crée des projets et on se lance. J'ai toujours eu cette âme un peu d'organisateur. Quand j'étais plus jeune, je mettais en scène mes cousins, tous mes copains, enfin ils en pouvaient plus. Donc du coup, il fallait que je passe maintenant au niveau supérieur avec des gens qui aimaient faire ça, et c'est venu à partir du lycée. Et j'ai commencé à monter mes propres pièces avec ma première compagnie, quoi.
Et la danse, le chant, ça vient d'où ça aussi? C'est entre guillemets autodidacte
alors,
ou c'est...
Ça a été... C'est resté longtemps dans le placard. Hein. C'est ressorti il n'y a pas si longtemps. Je prends des cours de chant maintenant depuis 2 ans. Des cours de danse un peu tous les ans, mais différentes. J'ai fait du street jazz en talons. J'ai fait du modern jazz, du classique, du charleston. Pour parcourir et faire de la comédie musicale et du cabaret. C'est un truc que j'avais en tête depuis très longtemps. Et je me suis créé un personnage pour arriver jusqu'au monde du cabaret et de la comédie musicale.
Un peu de claquette aussi ou pas?
Oui.
Ouais, parce que au niveau show, c'est particulier.
Ah, moi, j'adore. Les claquettes, c'est toute la référence de John Kelly et Fred Astaire de Broadway.
On a tous ça en tête.
Ah ouais. Mais moi, je suis un grand fan de Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, qui est un film extraordinaire. Et j'adorais Donald O'Connor qui faisait des claquettes, mais excessivement bien, comme John Kelly dans Les Demoiselles de Rochefort aussi, était de Jacques Demy. Donc c'est vrai que, franchement, j'ai adoré et je continuerai à en faire. Et ça fait que 1 an, les claquettes, on y va tranquille. Hein.
Ouais. En même temps, je crois que ça revient entre guillemets un petit peu à la mode, parce que des fois, on trouve sur les réseaux sociaux des vidéos de jeunes qui font cette pratique et qui peut sembler un peu désuète. Enfin,
désuète, on peut... Ouais, maintenant, on le modernise à fond, quoi. Voilà, on peut retrouver sur les réseaux maintenant des petits cours instant de claquettes. Et j'adore, c'est tellement rythmé et ça donne un rythme, un spectacle exceptionnel.
Oui, parce qu'il y a bien des gens qui font du beatboxing avec la bouche, etc. Ben, en fait, les claquettes, c'est vraiment ça. C'est du rythme, c'est
ah
très
ouais.
rythmé.
Moi,
quoi.
J'adore ça. Mm.
Ça peut servir de marqueur sonore hein, avec une autre musique, peut-être. Claquette.
Exactement. Là, je fais un passage de Sing in the Rain dans mon spectacle, mm-hmm. justement, avec des claquettes. Et c'est toute cette référence-là. Ouais, j'adore.
Il faut gérer le souffle dans tout ça.
Oui, parce que si on chante, on danse et on fait des claquettes tout en parlant, bref, oui. c'est un vrai mélange. Mm-hmm. C'est clair. Ouais, ouais, on travaille beaucoup la respiration. Mm-hmm. C'est la base. Et du coup, le corps, la voix. Et l'âme, mmh. c'est ce que je dis des fois à mes élèves, mmh. S'il n'y a pas les trois, on est foutu.
Ouais, c'est vrai. C'est important, là, cette gestion du corps, et du souffle, cette colonne d'air, etc. Voilà, c'est intéressant d'apprendre tout ça, d'ailleurs.
Que ce soit et il faut boire beaucoup.
Ah oui, ça oui, de l'eau.
De l'eau.
Pour le corps vocal, il vaut mieux boire de l'eau. Hein. Voilà. On fait déjà notre première petite pause et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie
ah bah
de
super.
Notre émission.
Chantons.
C'est parti. Et nous voilà de retour. Alors c'était Killing an Arab de The Cure.
Fait
un morceau pas très connu, mais voilà, mais il y a une petite connexion quand même parce que voilà, hein, ça parle un petit peu de l'étranger de Camus. Hein, et il y a une connexion avec notre invité, n'est-ce pas? Parlons-en.
Tout à fait. Et oui, l'étranger qui vient de sortir au cinéma d'ailleurs de François Ozon. Mm-hmm. Quand j'étais au cours Florent. Il y avait un concours qui était organisé par le cours Florent et la Fémis de Paris, qui est une école de cinéma. Et on devait faire un court-métrage de 15 minutes, mmh. grand max. Et j'avais lu, juste avant d'aller au cours Florent, au lycée, L'étranger. Mmh. J'avais adoré.
Oui, c'est marquant.
Ah oui, il y en a qui n'aiment pas du tout.
Oui, oui.
Et il y en a qui adorent. Et moi, j'étais même parmi ceux qui adoraient. J'ai lu et je me suis dit, tiens, si tu faisais la première partie du roman... En 15 minutes, tu adaptes la fin, et voilà. Et c'est comme ça que je suis parti avec ma petite équipe. On n'était que trois, un à la caméra, un au son, un au maquillage et aux photos, moi à la réalisation, et quatre comédiens. Donc Meursault, Marie, Raymond et l'Arabe. Et c'était très très intéressant de travailler cette œuvre, vraiment. Et elle est sur YouTube, d'ailleurs. Si vous tapez Loïc Labaste, vous trouvez sur YouTube L'étranger, ça dure 15 minutes. Et je suis allé dans des collèges et des lycées pour présenter ce film, dont dans mon ancien lycée, d'ailleurs, à Saint-Joseph, pour présenter le film. Et j'ai adoré monter ce film. C'était mon tout premier court-métrage.
Ah oui. C'est vrai qu'on en parlait hors antenne, Camus a longtemps été utilisé à l'éducation nationale, mais on parlait plus de La Peste au départ. Que, c'est peut-être un texte plus long, mais peut-être plus accessible.
Peut-être. L'étranger, c'est très long, c'est aussi très...
C'est pesant.
Assez pesant, c'est très descriptif et il faut vraiment rentrer. Et c'est très dur. Maintenant, dans les séries Netflix, il faut aller super vite. Il faut de l'action de suite pour qu'on accroche.
Oui, non, c'est pas...
Alors, un film comme L'étranger, il faut aimer aller au cinéma et prendre le temps.
Ouais,
et
voilà,
moi, je trouve ça génial d'aller au cinéma pour voir des films comme ça aussi, d'action comme des films d'auteur.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on garde en tête cette image un peu de soleil de plomb, un peu gris, peu saturé les couleurs avec cette plage et cette espèce de, j'allais dire, de loose, quoi.
Nonchalant.
C'est pas quoi faire.
Exactement.
Et tant
dans
qu'à
le
faire,
désert.
Autant tuer un arabe, quoi.
Franchement.
Si on sait pas quoi faire pour s'occuper.
Quel enfer.
Ouais, voilà. Enfer. Non, mais c'est vrai que c'est important.
Si on remet dans le contexte, c'était en Algérie.
Oui,
voilà,
oui,
c'était
bien sûr,
en Algérie, avec tous les conflits et tout ça. Et François Ozon l'a très bien traité, justement, par rapport à ce qui s'est passé en Algérie, la guerre d'Algérie.
Alors, vous êtes aussi un peu clown.
Ah oui, rien à voir.
Hein non, ben non, on passe du coq à l'âne.
En effet, alors oui, clown.
En quelque sorte.
Alors, ouais, moi je venais longtemps à Saint-Paul et Dax voir le cirque international.
Voilà, on va les recevoir d'ailleurs bientôt.
Ah, très bien.
Oui, on va parler de tout ça.
Ah, mais moi c'est toute mon enfance. J'y allais avec mes parents, mon père qui est fan de cirque. Et d'ailleurs, j'étais là ce week-end au festival Mondo Clown à Marmande.
D'accord.
Où ils réunissaient les clowns du monde entier. C'était magnifique, c'était sur le thème de Charlie Chaplin d'ailleurs.
Évidemment.
En hommage.
Oui.
Qui était un grand clown et qui m'a aussi beaucoup inspiré. Et toutes ces inspirations m'ont fait dire, tiens, moi quand j'étais petit, j'étais à l'école et je disais je veux être clown. clown de cirque d'abord. Et finalement, ça s'est opté plutôt sur un clown burlesque, cabaret, musical. Parce que c'est cet univers que j'aime. Chanter, danser, procurer des émotions et surtout la poésie. Et ça, pour moi, avec ma mamie, on se l'est dit tout à l'heure, la poésie, c'est très important et c'est ce qui fédère. Voilà. C'est ça que j'aime dans le spectacle. C'est fédérer les gens et, avec du divertissement et faire passer des messages.
Oui.
Et donc, c'est un clown burlesque que j'ai, qui est en fait réellement, c'est moi. mais x10.
Oui.
Voilà.
Oui, voilà,
exactement. Donc du coup, c'est comme ça que j'en ai créé un spectacle.
D'ailleurs, on peut la saluer parce qu'elle nous écoute en ce moment.
Ah oh, oui, hein, Christiane et Bernard Bagnères.
Il y a des gens qui nous écoutent à sûr, Soustan, sur Soustan.
Alors c'est Pontonx.
Pontonx.
Pontonx sur Adour.
Pontonx, voilà.
Donc c'est vrai qu'on
arrose un peu en ce moment sur deux zones, donc c'est sympa.
Et oui, et Soustan aussi, où et j'ai une amie qui s'appelle Annie Dupot, qui est une productrice de spectacles. C'est une femme qui m'a propulsé dans mes premières pièces et qui m'a donné l'opportunité de jouer dans plusieurs villes. Je la remercie. Mmh.
Alors, vous avez fondé une compagnie. Alors, c'est 11%. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous en faites toujours partie?
Alors, pour faire la différence, on a donc les 11% avec Bordeaux, au Cours Florent. Mmh. Et ma compagnie que j'ai créée à Dax, justement, on y est, la compagnie En Décalé.
Oui.
Donc les 11%, j'y suis toujours, on joue toujours Cyrano de Bergerac que j'ai monté dans un univers musical cabaret Moulin Rouge, d'où les références que j'ai dit au début.
Et, oui.
Et avec En Décalé, on fait d'autres spectacles, et souvent décalés, n'est-ce pas?
Oui. Bah là, déjà, Cyrano de Bergerac, dans cette ambiance-là, c'est un peu décalé déjà.
Oui, c'est clair, c'est clair. C'est quand je suis parti à Londres voir la comédie musicale Moulin Rouge que j'ai eu le déclic du tango de Roxane. Et je me suis dit, Roxane, Cyrano. Et j'ai lu Cyrano.
Et, oui.
Et ça a fait... j'ai collé les deux.
Et oui, alors c'est Edmond Rostand.
Fameux Edmond Rostand.
Voilà, ouais. Et donc avec son fils, hein, qui est très célèbre, puisque Jean Rostand, qui a travaillé biologie sur les... notamment les mutations des grenouilles et appouilles de saut. Et voilà, il y a un endroit où on peut visiter un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé derrière lui. Peut-être les grenouilles avaient un grand nez aussi, je ne sais pas s'il s'est inspiré des travaux de son père.
Alors si vous voulez une anecdote... que j'ai appris à la Villa d'Arnaga, à Cambo-les-Bains, où habitait Edmond Rostand après son succès de Cyrano de Bergerac, où il a pu s'acheter cette maison dans le Pays Basque. Il avait un surveillant quand il était au collège et il avait une relation épistolaire avec son surveillant qui avait un énorme nez.
Ah.
Et il a fait la référence avec cet auteur de 1600, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, avec son pion qui justement où il faisait cette relation épistolaire, il a mêlé les deux.
D'accord.
Et il a créé ce grand héros dramatique.
Ça c'est une anecdote intéressante, peut-être qu'elle n'est pas super connue, moi je ne la connaissais pas en tout cas.
Voilà, j'ai appris ça là-bas.
Alors du coup ça se joue comme ça, parce que c'est un grand classique.
Oui.
Vous avez un peu tordu, mais seulement dans la forme ou dans le fond?
Dans la forme.
Ouais, est-ce que les textes sont toujours les mêmes?
Oui.
Voilà.
Oui, moi mon but c'était de garder l'alexandrin au pied près, à la syllabe près. On a coupé une heure et demie de spectacle quand même, on a coupé une heure et demie de texte, et on a gardé le prisme Roxane, Cyrano et Christian.
D'accord.
Le prisme du triangle amoureux, pour qu'on aille à l'essentiel. Toutes les scènes entre les trois sont en entier. Et donc du coup, tout le reste après, c'est vraiment pour de la forme, avec de la danse, du chant, enfin du playback, en tout cas la discipline du playback qui est pris beaucoup dans le monde drag. Et bien sûr de la comédie, parce que Edmond Rostand l'a appelé comédie héroïque. Donc cap et épée, mais comédie tout de même.
Oui.
Il est très très drôle, Edmond Rostand, vraiment. Vraiment, il y a de quoi faire.
Oui, c'est vrai. Alors, parce qu'on a en tête, on a vu des tas de films de grands comédiens français.
Ah oui, sur scène aussi.
Le jouer, etc. Donc, ça fait peur ou c'est motivant de se dire, oula, on passe après ça, on risque d'être jugé, attention.
Quand je l'ai lu, je l'ai pris tout à fait humblement en mode, tiens, si je montais Cyrano avec mes copains parce que je les vois trop dedans, tout ça. Et quand je suis parti en tournée, c'est là où j'ai fait, ah ouais, c'est fédérateur de fou, c'est quand même dingue. Et la toute première qu'on a faite, c'était à Villeneuve-de-Marsan, à l'Alambic des Arts, qui nous a accueillis en résidence avec Lilian Darouille. Et je l'ai compris de suite, c'était très beau. Les gens avaient le texte, la péninsule, le grand nez, la tirade des non-merci.
Ben oui.
Il meurt assassiné, Montpanache, tout ça, c'était déjà... dans la tête des gens, et c'est très très beau à voir et à entendre.
Ça fait partie de la culture générale en fait maintenant. C'est une pièce qui a été tellement vue
et jouée. C'est la pièce la plus jouée dans le monde entier.
Et voilà, c'est ça, c'est presque comme je sais pas, l'avare de Molière quoi. Voilà,
c'est la plus traduite.
Oui.
Elle est traduite dans 188 langues. On a vu ça à Bergerac, quand on est parti jouer à Bergerac. On a vu un musée qu'ils ont créé sur Cyrano, avec Edmond Rostand, tout ça. Et il y avait plein d'anecdotes hyper intéressantes. Mais Bergerac, c'était par exemple un souvenir inoubliable de jouer Cyrano À Bergerac.
Ah ben oui, Cyrano de Bergerac à Bergerac, là.
Complètement. C'est sûr, d'ailleurs, si vous voulez revoir Cyrano de Bergerac, les chers Landais, c'est à... on revient à Villeneuve-de-Marsan pour la 50e.
Voilà.
Et on joue au Théâtre de Verdure de Villeneuve-de-Marsan le samedi 6 juin à 21h.
Très bien. On va faire une autre pause, on va écouter un petit peu de musique et le flash info local, et puis on va continuer à explorer vos actions. Et puis il y a beaucoup de connexions avec le territoire, on a parlé Saint-Jacques et tout ça, voilà. On va continuer à découvrir tout ça après cette nouvelle pause.
Chantons.
Et nous voilà de retour. Alors on parlait d'ancrage local et de Saint-Jacques, hein, vraiment il y a une connexion importante, hein, vraiment.
Et oui, j'ai commencé il y a 5 ans à travailler avec Julie Zumkeller, qui m'a fait appel pour être intervenant metteur en scène au lycée Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on crée ensemble et qu'on fait un spectacle à l'Atrium chaque année. Donc moi, je suis intervenant avec un autre metteur en scène qui vient aussi. Et voilà, on vient aider, quoi. Voilà, on vient aider 3-4 fois, plus le jour de la représentation. Et on a monté plusieurs choses. Edmond d'Alexis Michalik, Roméo et Juliette, L'Hôtel des Deux Mondes d'Éric-Emmanuel Schmitt. Mmh. Et cette année, une adaptation d'un roman policier qui va s'appeler Ne plus avoir peur.
D'accord.
Voilà.
Alors, votre truc, c'est la réalisation, la mise en scène, etc. Mais est-ce que l'écriture fait partie des envies ou des choses qui se font que vous faites?
Oui,
déjà...
La première chose que j'ai écrite, c'était un scénario de cinéma que j'avais écrit pour mon village, pour les jeunes de mon village. Ça s'appelait Tragédie aoriste, qui mélangeait Hercule Poirot et Miss Marple.
Ah oui, tiens, oui.
Dans une invention complète que j'ai imaginée autour du village, avec les animations du village, dont le cabaret où j'ai commencé.
D'accord,
on a fait un meurtre dans un cabaret. Enfin, voilà. Et c'était mon tout premier écrit. Le deuxième écrit, c'était Valentin Chaud, qui était un spectacle que je joue en ce moment, un seul en scène, avec mon clown burlesque.
Voilà, oui.
Et après, là, je suis en train d'écrire un livre. Voilà, c'est un petit test pour moi.
Oui, oui.
Qui s'appelle Le Banquet des Hommes.
D'accord.
Voilà, ce sera pour l'année prochaine, je pense.
De toute façon, je crois qu'il y a un moment donné, quand on aime quelque chose, quand on aime manger, je crois qu'à un moment donné, on a envie de faire la cuisine.
Exactement.
Voilà. Et donc, c'est pareil pour le reste, non?
Plus on me donne à manger en matière, plus ça me nourrit de tellement de choses et de tellement de... Et d'avoir plein de références pour en parler avec tout le monde.
Bien sûr. Alors, on va parler un petit peu là, le théâtre, le cinéma, c'est pas la même chose. Comme je disais, Rantaine, au théâtre, il n'y a pas de contrôle Z. Hein, c'est, vous savez, le raccourci clavier qui permet d'annuler la dernière action.
Et non.
Il n'y en a pas.
On ne peut pas.
Ouais.
On ne peut pas. Au cinéma, on peut. Pendant le tournage, quand le film est fini, il est fini. Mais au théâtre, quand tu es lancé, eh ben, tu termines. Surtout quand tu es tout seul sur scène, tu n'as personne pour te rattraper. Et ce spectacle s'appelle Valentin Chaud, qui est l'histoire d'un jeune clown qui débarque à un casting, mais le metteur en scène n'est pas là. Donc du coup, il se retrouve avec les autres qui passent le casting, donc le public.
Ouais.
Et il va commencer à raconter sa vie un peu plus. Et ça dure une heure. Le metteur en scène, on ne sait pas s'il arrive. Et il montre beaucoup d'espoir, beaucoup de croire en ses rêves. Ça paraît bateau. Mais en vrai de vrai, d'y croire réellement, eh ben on y arrive.
Ouais.
Voilà. Moi, j'y crois depuis que j'ai l'âge de 7 ans et maintenant, j'en vis.
Ben voilà. Alors, aussi, alors, des fois, j'ai regardé sur Internet un petit peu, il y a des gens qui sont... Il y a du pour et du contre, les bords en scène, les bords de scène. Il y a des gens j'ai vu des gens sur des blogs et dire « Ah non, moi, je trouve que ça... » C'est, un moment désagréable qu'on impose aux gens qui sont déjà supportés
ah oui.
Une heure et demie. Voilà, et qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, le bord de scène, je suis complètement pour. Moi, j'adore. Surtout avec les scolaires. On en fait beaucoup avec les scolaires. Quand je joue Cyrano, tout ça. Mais parce que les gens, moi j'ai pas trop envie que ce soit « Oh là là, les artistes sont intouchables, on peut pas leur parler, nan, nan. » Non, justement, c'est le partage d'after-spectacle, l'après-spectacle.
Oui.
Il est tellement bien, tellement important, les retours sont là. C'est des gens qui n'y connaissent rien ou qui connaissent très très bien le théâtre. Et du coup, on partage de très bons moments à avoir des retours. Et moi, pour moi, c'est génial. Les enfants, alors là, c'est le meilleur public parce que pas de filtre. Et au moins, ils disent s'ils ont aimé ou pas et ils disent pourquoi. Et ça, c'est important. Certaines personnes me disent des fois « Bon, j'ai pas trop aimé, tiens. Et pourquoi ?»« Je sais pas, c'était pas... » C'est moins intéressant.
Oui, c'est vrai.
Donc, voilà. Et c'est très important pour moi, le bord de scène. Souvent, les théâtres le proposent. D'autres, pas du tout. Moi, je le propose dans tous les cas automatiquement. sauf ouais, c'est plutôt pour les classiques, ou pour les grandes pièces d'équipe où on peut parler à plusieurs personnes, à plusieurs comédiens. Mais mon seul en scène, non, ça se fait pas naturellement, mais on parle avec le public après autour d'un verre. Ouais, ouais, toujours le partage.
Ouais, ça c'est bien. C'est comme voilà, je dis toujours avec les musiciens, les petites salles de concert, ben, c'est bien parce que après le concert, il y a l'artiste qui est là, il fait le merch, il vend ses CD, ses t-shirts.
Exactement.
Et puis on peut, c'est vachement bien quand même en tant que spectateur. Hein, je me mets dans le point de vue du spectateur, de pouvoir dire aux artistes qui font des choses qu'on aime ce qu'ils font.
Ah ça, mais c'est notre plus belle
occasion.
C'est notre plus belle récompense en plus des applaudissements.
Ouais, voilà. Ouais.
Ça ou le standing ovation si ça arrive. Mmh. Ça c'est magnifique. Mmh. Hier je jouais à Nérac dans le Lot-et-Garonne de Valentin Chaud. C'était un pur moment magnifique. C'était une salle de 50 places. Les gens étaient à l'écoute, participaient. Je fais participer aussi sur scène des gens. Et c'est un bonheur pur de vivre ça. Et du coup, je le rejoue, ce spectacle, dimanche qui arrive à Saint-Michel-Escalus, à côté de Léon, Casse-Tête. C'est à 18h dimanche, à la salle des fêtes de Saint-Michel-Escalus. Voilà, si vous voulez découvrir cet univers.
Alors, c'est l'occasion encore d'accentuer, là, de parler de cette histoire de différence entre cinéma et théâtre. Quand on a vécu, alors, il n'y a pas un côté, je ne sais pas, frustrant de n'avoir affaire qu'à une caméra ou à une équipe technique par rapport au cinéma, par rapport au théâtre est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux que d'autres pour vous ? Alors, c'est deux saveurs différentes. Ben oui.
Ah oui, alors réellement, c'est deux saveurs différentes pour moi. Parce que le cinéma, j'adore le réaliser. Et le théâtre, j'adore le jouer. Même si j'adore mettre en scène des spectacles aussi en théâtre. Mais le cinéma, il y a quelque chose de très frustrant parce qu'on attend plus qu'on joue. On attend que le plan soit fait, il faut attendre. Ça va être dans 10 minutes, c'est dans une heure. Enfin bref, c'est très très long de réaliser un film. Des fois, il y a 6 mois pour faire un film, des fois 2. Mais moi, j'aime être derrière. Parce que du coup, les comédiens, je sais comment les diriger. Puisque je suis moi-même comédien, il y a ce truc de... Je sais qu'est-ce qu'ils pensent, où ils veulent aller, tout ça, je les dirige. C'est de la direction d'acteur, en plus de la mise en scène. La mise en scène, on dit que c'est beaucoup la forme. Et la direction d'acteur, c'est le fond, voilà, pour travailler le texte.
D'accord.
Et le cinéma, pour moi, je l'aborde de la même manière dans mes films. Voilà. Avec Étranger, on l'a fait comme ça. Pour mon film 10 aussi, qui est une adaptation de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, et Le songe d'un été, le dernier. D'ailleurs, je salue le projectionniste de Dax, qui était à la tête de la projection à Dax au cinéma Le Grand Club, Eric Daricot, qui m'a lancé dans le cinéma et qui m'a donné l'opportunité de projeter mes films dans les cinémas landais.
Et donc, vous collaborez souvent aussi avec Lucas, alors je vais essayer de le dire bien.
Ah, voyons.
Radziejewski.
Yes, Lucas Radziejewski.
Ah ouais, je ne me suis pas trop loupé.
Tout à fait.
Oui, donc parce que j'ai vu dans certaines de vos productions, c'est les rencontres aussi, tout ça. Le théâtre, le cinéma, la musique, le chant, la danse.
Énormément.
C'est très important,
ça. Il faut beaucoup bouger, il faut beaucoup rencontrer, faire des projets des fois bénévoles et qui amènent à des choses... très belle en termes de rencontres, et ça fait des investissements par la suite. Toute rencontre avec artistes, même ici à la radio, avec toi, c'est très intéressant de parler de tout le monde de l'art en général. Et Lucas, c'était un ami, on avait des amis en commun, je ne l'avais jamais vu jouer, jamais vu travailler. J'ai voulu tenter le challenge avec lui. Et bien alors là, c'était banco, j'ai adoré. Il m'a appris à chorégraphier le spectacle, il m'a appris les claquettes. Il m'a briefé un peu sur le chant, il a retravaillé le texte avec moi, ça fait que j'avais un œil vraiment extérieur. Il est d'ailleurs en ce moment à l'affiche de La Cage aux Folles à Paris avec Laurent Lafitte.
Ah oui, ça c'est quand on en parlait hors antenne, c'est quand même une sacrée pièce, La Cage aux Folles.
Oh
là. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut sembler tellement, comment dire, à prendre au premier degré, vraiment, burlesque dans le sens un peu péjoratif du terme, mais c'est quand même, moi je trouve ça c'est super fort.
Ah oui, moi La Compagnie en décalé, le tout premier spectacle, c'était le show en décalé, j'avais 17 ans, et je l'avais fait en duo avec Michel Forsens, un ami qui était au cabaret avec moi à Auriste. Et on avait décidé de faire que des duos, Laurel et Hardy, les Vampes, les Inconnus, qu'on a réduit à deux, et dont La Cage aux Folles, on avait joué la scène de la biscotte, très connue, qui est exceptionnelle, de Jean Poiré et Michel Serrault.
C'est vrai que,
c'était exceptionnel. Et du coup, ça a commencé comme ça, la compagnie, avec juste un show. Et après, il y a eu plusieurs pièces. Et maintenant, on en est là.
Ouais. Eh bien, on va déjà faire la dernière pause de notre émission, écouter encore un petit peu de musique, et puis on arrivera gentiment à la conclusion de cette émission.
Très bien.
Très vite. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Alors, on va parler un peu actualité. Hein. Quand est-ce qu'on peut voir Loïc et où ?
Parce que ah, ça, oui. Ça nous intéresse. Eh bien, écoutez, prenez tous vos agendas à la maison. Je reviens dans les Landes avec, du coup, dimanche 15 février, donc ce dimanche, juste après la Saint-Valentin, justement, à oui. 18h, à Saint-Michel-Escalus, vous verrez Valentin Chaud.
Voilà.
Voilà, mon seul en scène. Clown burlesque. Après, on se retrouve en mai. Le 7 mai, je vais jouer aux arènes de Pontonx pour le concert de la Sirène Pontoise, dirigé par Jérémy Lacaze, qui est également chef d'orchestre de l'année à Dax. Voilà, le 7 mai, avec également Valentin, mais avec une toute autre trame, parce que ça va être notre thème. Voilà. Ensuite, le 22 mai, je vais jouer à la salle des fêtes d'Oriste, donc dans mon village natal, Peter Pan, une adaptation que j'ai faite de James Matthew Barry à 20h30. Voilà. On fait une scolaire l'après-midi aussi pour les écoles primaires. Et enfin, le 6 juin, samedi 6 juin, pour Cyrano de Bergerac à Villeneuve-de-Marsan, au théâtre de Verdure à 21h. Voilà, quatre dates à retenir, 15 février, 7 mai, 22 mai et le 6 juin.
Très bien, bon, alors bien sûr, il y en a d'autres, il y en aura d'autres,
mais
pour ça, il faut aller sur votre site internet, et il y aura les réseaux sociaux, là, il y a toutes les infos qu'il faut.
Vous pouvez taper en effet loiclabaste.com, vous aurez toutes les infos et toutes les dates en temps et en heure.
On mettra bien sûr un lien dans le podcast, hein, comme il se doit.
Ravi.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé un petit peu aussi de les scolaires, hein, tout ça, la transmission, on n'en a pas beaucoup parlé de ça, parce que ça, c'est parce que vous avez démarré jeune, etc., et vous dites, ben, ce serait bien aussi que les pitchouns, ils aient aussi
accès au théâtre.
Ce virus.
Exactement. J'ai commencé au théâtre à Salon-les-Mines et en 2022, Marie-Josée Larivière, qui était ma metteur en scène, m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas reprendre l'atelier théâtre? Et alors moi, évidemment, il fallait que je mette un peu de danse et de chant, donc ça devient une comédie musicale. Et j'ai monté trois comédies musicales avec 15 élèves à chaque fois, qui allaient de 9 ans à 50 ans, voire 60. On a monté Le Bal de Promo, un film qui est sur Netflix, qui s'appelle The Prom, avec Meryl Streep, Nicole Kidman, voilà, sur l'acceptation et sur la différence. Ensuite, on a fait Sister Act. Plus connu, hein.
Oui.
Sister Act, on adore.
Et Whoopi Goldberg. Hein.
Ah, exactement, j'adore. Donc du coup, j'ai fait une adaptation du film 1 et 2, et même de la comédie musicale qui était passée à Mogador. On a fait un beau mélange. Et la dernière année, avant que je parte sur d'autres horizons, Peter Pan, justement. C'est pas celui que vous allez voir le 22 mai, mais c'est, là, c'était vraiment une comédie musicale, une adaptation, pareil, du film de 2003 que j'adore avec Jeremy Sumpter. Voilà. Donc, j'ai pu faire cette transmission avec ces élèves à ma manière, quoi. De comment j'ai appris, comment je veux transmettre. Moi, je dis qu'il y a toujours trois pans très importants. C'est la communication, le travail, la passion et le dernier, pour compléter quand même, l'humilité. Si on a ces quatre pans, ces quatre, ce beau carré, on peut travailler tous ensemble dans l'art.
Très bien, ben, ça sera le mot de la fin, Loïc.
Très bien, ben, merci beaucoup
d'être venu nous faire découvrir votre univers et tout ce que vous faites. Voilà, le côté un peu hyperactif quand même. Hein,
oui, mais, un peu ça,
sans péjorativité du tout dans le terme. Il
voilà, faut organiser l'emploi du temps.
Voilà, c'est ça. Mais c'est bon, c'est pour le plus grand bénéfice des spectateurs.
Et je suis très content de pouvoir partager ça à la radio pour les téléspectateurs. Merci infiniment pour votre invitation, Souvenir FM.
Ben, merci beaucoup et puis à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci Jean-Philippe.